Chapitre 1. Plein feu sur Erenrang. Document tiré des archives de 1. Transcription du message en cible 01-01101-934-2-Geten. Rapport adressé au Stabil Dolul par Genli Ai. Premier mobile sur Geten Nivose. Cycle N1 93. Année écuménique 1490-97. Je vais donner à mon rapport la forme d'un récit romancé. C'est qu'on m'a appris lorsque j'étais petit sur ma planète natale que la vérité est affaire d'imagination. Un fait irréfutable peut faire long feu ou s'imposer, selon la manière dont on le présente, tel cet étrange joyau organique de nos mères dont l'éclat s'avive ou se ternit jusqu'à tomber en poussière en fonction de la femme qui le porte. Les faits ne sont pas plus solides, cohérents, réels que des perles. Mais tous ont leur sensibilité. De ce récit, je ne serai ni le seul héros, ni l'unique narrateur. En réalité, je ne saurais dire avec certitude de quelle personne il compte l'histoire. À vous d'en juger. Mais il forme un tout, et si par moments les faits semblent rapportés d'une voix différente, eh bien, libre à vous d'en choisir la version qui aura votre préférence. Mais au final, aucun n'est faux. Il s'agit d'une seule et unique odyssée. Tout commence le 44e diurne de l'an 1491. En Caraïde, une nation de la planète Nivose, c'était Odaraad Tua, le 22e jour du 3e mois de printemps de l'an 1. C'est toujours l'an 1, ici. Seule la datation des années passées et futures se voit modifiée à chaque retour du nouvel an, le chiffre qui les désigne augmentant ou diminuant d'une unité, selon qu'il s'agit du passé ou de l'avenir. Nous étions donc au printemps de l'an 1, à Erenrang, capitale de Caraïde. J'étais en danger de mort et je ne m'en doutais pas. Je participais à un défilé. Placé juste derrière les Gossiwar, je précédais immédiatement le roi. Il pleuvait. Un ruban doré serpente lentement sous les nuages de pluie qui surplombent les sombres tours de la cité de pierre battue par la tempête. En tête évoluent les grands magnats, commerçants et artisans de la cité d'Erenrang. En rang serré, magnifiquement vêtus, ils défilent sous la pluie aussi confortablement que des poissons dans l'eau. Leurs yeux vifs gouvernent de calmes visages. Ils ne marchent pas au pas. C'est là une parade sans soldats, qui ne fait rien paraître militaire. Viennent ensuite les seigneurs, maires et délégués de tous les domaines et codomaines de Caraïde. Pour chacun d'eux, 1, 5, 45 ou 400 représentants. Cette vaste procession chamarrée progresse au rythme d'une musique jouée par des cors métalliques, des instruments à vent faits d'os et de bois et de mélodieuses flûtes électriques d'un son très pur. Les diverses bannières des grands domaines forment, avec les banderoles jaunes qui ornent le parcours, une orgie de couleurs sous la pluie implacable. Les orchestres de chaque groupe se heurtent et entremêlent leur rythme dont l'écho va se répercuter sur les hautes murailles de la rue. Ensuite, on trouve un groupe de jongleurs qui projettent à grande hauteur des boules d'or brillantes, les rattrapent et les relancent en l'air tels d'éblouissants jets d'eau. Et tout à coup, comme si elles avaient littéralement capté la lumière, les sphères d'or s'embrasent avec l'éclat du verre. Le soleil vient de faire son apparition. Ensuite défilent 40 hommes vêtus de jaune, les joueurs de Gossiwar, cet instrument dont on entend le grotesque beuglement désespéré qu'en présence du roi. 40 musiciens qui en jouent de concert suffisent à troubler l'esprit, à faire trembler les tours d'Erenrang et à vider les nuages de leurs ultimes gouttes de pluie. S'il s'agit là de la musique royale, comment s'étonner que tous les rois de Caraïde soient fous? Après les Gossiwar, on trouve le roi et sa suite. Gardes, fonctionnaires, dignitaires de la cité et de la cour, députés, sénateurs, chanceliers, ambassadeurs et seigneurs du royaume marchent ensemble et sans souci des préséances, et pourtant avec une grande dignité. Parmi eux se trouve le roi Argaven XV. Vêtu d'une chemise, d'une tunique et de culottes blanches, auxquelles s'ajoute un caleçon de cuir jaune safran et une casquette jaune à visière. Une bague d'or constitue sa seule parure, l'emblème de sa fonction. le souverain est suivi de la litière royale, portée par 8 solides gaillards et hérissée de saphirs jaunes, une relique des temps jadis, car aucun roi n'y a pris place depuis des siècles. Elle est flanquée de 8 gardes armés de faucheurs, une survivance des temps barbares où l'on s'en servait pour mener des razzias. Mais ils n'ont rien d'inoffensif, chargés qu'ils sont de grenailles de fermou. La mort marche ainsi derrière le roi. Derrière la mort défilent les étudiants des écoles d'artisans, les collèges, les métiers et les foyers royaux, longue file d'enfants et d'adolescents vêtus de blanc, de rouge, d'or et de vert. Et c'est enfin un certain nombre de voitures sombres, contraintes à rouler au pas, en silence, qui ferment la marche. Le roi et sa suite, dans laquelle je me trouve, prennent place sur une plateforme de bois fraîchement coupée, près de l'arche inachevée des portes de la rivière. L'objet de cette cérémonie est la finalisation de cette arche, et, par là même, la mise en service du nouveau port routier et fluvial d'Erenrang. Vaste opération, ayant exigé 5 années de travaux pour draguer le fleuve et construire ponts et routes. Cette œuvre distinguera le règne d'Argaven XV dans les annales de Caraïdes. Nous sommes tous à l'étroit sur la plateforme, dans nos vêtements de cérémonie aussi humides que volumineux. Il a cessé de pleuvoir. Le soleil brille, ce soleil glorieux, éclatant et perfide de Nivose. Il fait chaud, vraiment chaud, lançai-je à mon voisin de gauche. C'est un Caraïdien trapu et basané, à l'abondante chevelure lisse et brillante. Il porte une lourde surtunique de cuir vert lamé d'or, une épaisse chemise blanche, une grosse culotte et autour du cou, une chaîne d'anneaux d'argent aussi large qu'une main. Il transpire abondamment.
« Effectivement, »
me répond-il. Tout autour de la plateforme sur laquelle nous sommes entassés, les gens ont levé la tête vers le ciel. Ils m'évoquent une multitude de galets bruns où brillent comme du mica des milliers d'yeux attentifs. Le roi gravit présentement une passerelle de bois brut qui relie la plateforme au sommet de l'arche, là où il reste à joindre 2 des piles du pont dressées au-dessus de la foule, des quais et du fleuve. À mesure qu'il monte, la foule commence à s'agiter, à prononcer son nom en un vaste murmure. Argaven. Il ne réagit pas, et nul ne songerait à s'en étonner. Les Gossiwar lâchent un mugissement tonitruant, discordant, puis se taisent. Silence. Le soleil brille sur la cité, le fleuve, la foule et le roi. En contrebas, des maçons ont mis en marche un treuil électrique. Hissé par cet engin, la clé de voûte de l'arche rejoint, puis dépasse le roi, toujours occupé à grimper. Après quoi, cet énorme bloc de 10 tonnes s'insère presque sans bruit dans la brèche séparant les piles avec lesquelles il forme un tout. Une arche. Un maçon muni d'un seau et d'une truelle attend le souverain sur l'échafaudage. Tous les autres ouvriers descendent alors par des échelles de cordes, telle une multitude de puces. Le roi et le maçon s'agenouillent sur leurs morceaux de planche, au perché, entre fleuve et soleil. De sa truelle, Argaven commence à lier avec du mortier les longs joints du vaste claveau. Le roi ne se contente pas de donner un petit coup de truelle pour ensuite rendre l'instrument à l'ouvrier. Il s'attelle à la tâche méthodiquement. Le ciment qu'il utilise est d'une teinte rosâtre qui le différencie du mortier servant à assembler les autres pierres de l'ouvrage. Après avoir observé quelques minutes le travail d'insecte du souverain, je me tourne vers mon voisin de gauche.
Vous utilisez toujours du ciment rouge pour fixer les clés de voûte?
Car cette couleur se retrouve de part et d'autre du claveau central de chaque arche du vieux pont qui domine magnifiquement le fleuve plus en amont. Tout en épongeant son front basané, l'homme auquel je m'adresse, je suis bien obligé de dire « homme » puisque j'ai écrit « il » et « lui », me répond.
Il y a très longtemps, une clé de voûte était toujours fixée au moyen d'un mortier fait d'eau broyée et de sang. Des os humains, du sang humain. Sans ce lien de sang, l'arche ne manquerait pas de s'écrouler, vous comprenez? On utilise du sang animal de nos jours.